RCF. L'image de la lampe est souvent utilisée pour parler de la vie spirituelle, une lampe allumée qui éclaire et réchauffe, une lampe qui brille dans la nuit. Jésus utilise cette métaphore en racontant une parabole où rentrent en scène 10 jeunes filles impatientes de rencontrer leur époux. Seulement voilà, elles n'ont pas la même façon de vivre le temps. 5 d'entre elles, cigales, brûlent de désir mais négligent leur endurance. Les 5 autres sont plus sages et vont pouvoir s'appuyer sur leur maturité. C'est l'évangéliste Matthieu qui propose cette parabole que nous commentons cette semaine en compagnie de Sébastien Anthony. Bonjour.
Bonjour Béatrice.
Je rappelle que vous êtes prêtre assomptionniste. Nous écoutons la parole, c'est au chapitre 25, versets 1 à 13.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous !» Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. »
Sébastien Anthony, nous sommes au début du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. C'est un chapitre célèbre pour ses paraboles, notamment celle du jugement dernier qu'on connaît. Jésus utilise des paraboles pour signifier l'enjeu de nos existences, le poids que nous avons à y mettre dans cette existence.
Alors, les paraboles, d'une manière générale, sont des messages, effectivement, que Jésus utilise pour donner un enseignement. Et là, effectivement, nous sommes dans les paraboles dites un petit peu de l'espérance. Cette espérance du retour du Christ, effectivement, il y a des paraboles qui précèdent où là aussi on attend le Seigneur, on attend ce propriétaire qui ne vient pas, qui n'arrive pas. Et là, voilà, il faut se décider. Et là, le Seigneur, effectivement, nous dit quelque chose de notre importance dans l'attente, de notre liberté aussi face à ce Seigneur qui se présente à nous, qui peut-être tarde, comme dans la parabole d'aujourd'hui, mais qui se présente et se présentera de manière certaine. Et du coup, que faisons-nous de cette proposition du Seigneur qui s'annonce et se propose?
Quand on parle du retour de Jésus, c'est quoi? C'est un retour futur ou c'est aujourd'hui ce retour?
Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc justement cette finale est intéressante pour dire que vivons comme si c'était effectivement peut-être demain ou après-demain, mais aussi tout de suite, pourquoi pas? Enfin, c'est-à-dire que c'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'éternité. Donc il ne s'agit pas d'avoir un rendez-vous précis avec un horaire précis, de savoir est-ce que c'est pour demain, pour après-demain, pour dans 100 ans, pour dans 2000 ans. Ça, c'est un petit peu, les sectes courent un petit peu à ce genre de choses en disant voilà, attention, il arrive et puis ça se passera mal, hein, forcément son retour. Ben non, pourquoi? C'est des noces, son retour. Donc c'est un mariage, donc c'est une fête. Le retour du Seigneur, finalement, il peut arriver pour n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est le moment de sa conversion, finalement. C'est le moment où ça fait tilt dans une vie. C'est le moment de bascule où on dit ben pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi je ne croirais pas à cet évangile qui se propose, à ce Seigneur qui s'annonce? Oui, j'ai envie de croire. Et ben c'est ça le bon moment pour lui.
Souvent dans les paraboles, Jésus fait allusion à des réalités de son époque pour parler du royaume. Hein. Le royaume, c'est comme. C'est souvent comme ça que ça commence ces paraboles. Alors là, il s'agit d'une noce, de jeunes filles. Ça fait référence à des réalités qui existaient ?
Ça fait complètement des références. Voilà, c'est-à-dire que si Dieu s'adresse aux hommes, et de son temps et d'une autre, il utilise des références qui sont les nôtres. Il parle pas un langage mystérieux, lointain, qu'on ne comprend pas avec des... Enfin, c'est pas ésotérique en fait. Hein. Voilà, c'est pas ésotérique le message de l'évangile. C'est vraiment dans le concret de ce que tout le monde peut comprendre. Et les noces, c'est bien, voilà, on sait qu'il y a de la joie, on sait qu'il y a une rencontre, on sait qu'il va se passer quelque chose qui est important dans la vie d'une personne fondée sur l'amour, parce que a priori les noces sont fondées sur l'amour. Donc cette proposition du Seigneur qui arrive, il est question d'amour, il est question de rencontre, il est question d'alliance avec lui.
Sébastien Anthony, regardons de plus près avec vous cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 10 jeunes filles invitées à des noces, vous le disiez, un thème donc plutôt joyeux, la noce, la nuptialité, ça fait partie des grands thèmes bibliques.
Voilà, c'est le thème de l'alliance, le rêve le plus ancien de Dieu, le rêve le plus fou à la limite de Dieu, c'est d'entrer en alliance, en union avec l'humanité.
C'est pour ça que Dieu crée l'homme.
C'est pour ça, voilà, avec ce désir vraiment d'intimité avec lui, comme... presque comme une alliance d'un projet de vie qu'un homme et qu'une femme se donnent finalement dans une rencontre fondée sur l'amour, et ben le lien se fait pour que l'on comprenne finalement que le Seigneur veut ce même type finalement de relation avec nous. Il prend le lien le plus important qui existe pour un homme et pour une femme, qui est de s'épouser, de se donner l'un à l'autre, de fonder une famille, de fonder donc de donner la vie aussi. Et ben tout ça, toutes ces images là si vous voulez, ben Dieu les reprend, j'ose dire, à son compte, ou du moins c'est une manière dont on comprend le Seigneur pour vivre avec l'humanité tout entière, avec chacun d'entre nous.
10 jeunes filles prennent leurs lampes et s'en vont à la rencontre de l'époux. Alors visiblement, au départ, elles sont toutes animées d'un grand désir. Il n'y a pas de différence au début, hein, dans ce verset. Hein. Au début, elles sont toutes animées d'un élan très profond.
Elles sont toutes, exactement, elles sont toutes à égalité dans leur mission finalement. Parce que au temps de Jésus, et pour les mariages particulièrement, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble, ils mangeaient séparément. Donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de séparation où on a l'épouse en fait était entourée de 10 jeunes filles qui allaient l'accompagner, une sorte de comment dire de demoiselle d'honneur, on va dire ça comme ça, de cortège, de demoiselle d'honneur qui vont l'accompagner. Et donc les hommes avec le futur marié mangeaient de manière séparée. Et ces jeunes filles et la future épouse attendaient, l'épouse était sous un dais, une forme de dais, on le voit encore hein, dans les mariages juifs, hein, tout simplement, attendaient cet époux. Alors voilà, c'est une pratique. Hein,
courante que Jésus reprend.
Voilà, exactement, c'est comme ça qu'on se mariait et Jésus reprend cette image-là comme elle était.
RCF, enfin une bonne nouvelle. Nous sommes avec vous Sébastien Anthony pour commenter donc cette parabole que l'on trouve au chapitre 25, versets 1 à 13 chez Matthieu. 5 d'entre elles, donc ces vierges, étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit, mais c'est curieux quand même, quand on a une lampe qu'il faut remplir, il faut mieux avoir des réserves.
Oui, alors encore une fois, le texte nous dit que l'époux tarde, donc les prévoyantes se sont dit effectivement, remplissons ce qu'il faut pour que ça puisse, il peut arriver à n'importe quel moment. Les insouciants de se dire, il ne devrait pas tarder. Enfin, il y a quelque chose d'un manque d'intelligence. On appelle aussi cette parabole la parabole des vierges folles, des vierges sages. Mais ce qui est très beau finalement dans cette histoire de sagesse, c'est que ce n'est pas une question d'intelligence, d'être prévoyante ou pas prévoyante, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question finalement d'équipement, d'être équipé de cette huile, et c'est l'huile qui va faire la différence. Et l'huile, c'est important parce que vous le disiez tout à l'heure, le début de cet évangile, de ce passage, fait référence au royaume, au règne. Et le royaume, qu'est-ce que le royaume ? Eh bien, le royaume, dans la Bible, encore une fois, c'est prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Et l'huile, elle sert à quoi ? Certes, à allumer des lampes et donc à éclairer, mais c'est déjà prendre soin de quelqu'un que de l'éclairer. L'huile, elle sert aussi à nourrir, elle fait la nourriture,
On la mélange avec la farine, avec l'eau pour faire du pain ?
Pour faire du pain, pour rôtir, pour frire. Elle sert de médicament aussi. Quand on souffre, on peut mettre un peu d'huile pour apaiser les souffrances.
Pour oindre le malade.
Exactement. Et après, elle sert aussi dans l'onction, dans quelque chose de religieux qui dit le choix, la sélection, le choix qui est posé sur celui qui est oint, il est choisi, il est élu. Donc le royaume, le règne, prendre soin, il y a quelque chose là qui commence à se dessiner tout doucement. C'est pas simplement de l'huile technique pour qu'il y ait suffisamment de lumière. Jésus va un peu plus loin, et si on associe, parce que Saint Paul le fera en plus tard, mais cette mission finalement, ce désir que Dieu a de se donner comme épouse l'humanité, Saint Paul verra dans cette épouse non seulement l'humanité, mais aussi la mission de l'Église d'être l'épouse du Christ, d'être vraiment en alliance toute particulière avec le Christ, de dire en gros que ceux qui entrent dans l'Église, leur première caractéristique quand on est dans l'Église, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est simplement de vouloir être en alliance avec le Seigneur et de répondre positivement à cette proposition qui est faite d'être en alliance avec lui. Mais il y a une mission dans l'Église qui est de prendre soin de l'humanité. Donc, on recolle le patchwork, si vous voulez, avec cette idée que ces vierges-là peuvent représenter l'Église et elles doivent être prévoyantes pour prendre soin, avec leur huile, prendre soin du monde tel qu'il est. C'est ça, cette mission-là de l'Église. Et quand l'Église n'est pas prévoyante pour prendre soin de ce monde, l'éclairer, le soigner, l'oindre, le nourrir, eh ben elle fait défaut à sa mission. Et c'est là la folie que l'on pourrait du coup reconnaître. Et le Seigneur dit, ben voilà, où est ton goût pour le monde finalement? C'est ça la question sous-jacente de tout ce texte-là. Où est ton goût pour le monde dans cette mission que tu as de prendre soin de lui? Parce qu'on est dans une parabole du royaume.
En vous écoutant, je pensais à la parole du pape, l'Église comme un hôpital de campagne, cette huile qui permet de soigner le malade, huile qui va servir en dehors de l'Église.
Exactement. C'est-à-dire
et
que
pas simplement à l'intérieur.
L'Église n'est pas au service d'elle-même, elle est au service du monde.
Nous poursuivons avec vous, Sébastien Anthony, la lecture de cette parabole dite des vierges folles. L'époux tarde. Puisque Matthieu nous dit, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Nous pouvons imaginer l'attente, puis peut-être la déception, voire la désillusion de certaines qui plongent du coup dans un sommeil de plomb.
Alors certaines toutes, elles dorment toutes. Donc là aussi, c'est intéressant parce que encore une fois, si on le relie à cette mission de l'Église, eh ben on a tous, même les plus prévoyants, il y a des moments où on s'endort. Alors Le sommeil dans la Bible a aussi un sens, hein. C'est pas simplement de s'endormir, faire une sieste. Il y a plusieurs manières de dormir, et dans la Bible et dans la vie, si vous voulez. Il y a le sommeil du juste, qui est de s'endormir, mais en sachant qu'on va se réveiller avec un projet et on est épuisé.
Dieu veille sur le bien-aimé qui dort.
Exactement. Et il y a aussi le sommeil de celui qui veut fuir le monde, de celui qui veut, s'endormir, c'est aussi fuir la réalité. Donc, tout dépend de quel sommeil on parle là. Est-ce que c'est un sommeil, encore une fois, du juste, de celui effectivement qui est épuisé parce qu'il a travaillé, parce que voilà, il va se réveiller et puis il va reprendre la vie avec goût, avec appétit? Ou est-ce que c'est le sommeil de celui de celle qui effectivement, vous le disiez, un sommeil de plomb, alors ou au plombé, je sais pas comment il faut dire, mais en tout cas quelque chose qui dit l'ennui, la désillusion, ça peut être ça aussi. Et là, chacun est renvoyé à son sommeil, si j'ose dire. Par rapport à cette annonce du Seigneur qui se propose, à cette foi qui se propose, quand je m'endors, est-ce que c'est une forme de désillusion, de dire à quoi bon et pourquoi? Ça aussi, c'est une forme de sommeil et de fuite. Mais j'espère que ce n'est pas celui-là, en tout cas de nos auditeurs, ni de celui de l'Église.
Alors que les 10 jeunes filles dorment, au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc un appel à la rencontre qui n'a pas lieu à l'aube, mais en plein milieu de la nuit, à une heure justement où on peut se dire que les choses sont terminées, on n'attend plus quoi.
C'est le moment où les ténèbres sont les plus épaisses, le milieu de la nuit, effectivement. Et là aussi, là encore, image de la nuit, Jésus, encore une fois, en utilisant une parabole, veut nous dire bien plus que l'histoire de la parabole. La nuit, pour tout le monde, on a bien compris, c'est le lieu où on voit plus rien. Voilà. C'est le lieu où on voit plus rien, ni devant, ni derrière, ni à côté. C'est le lieu où on est perdu et on ne sait pas où l'on est. Et là, c'est au cœur de la nuit. C'est vraiment l'épaisseur absolue de où on ne voit plus rien. Donc, dans un cheminement de foi, en attendant le Seigneur, en ne sachant pas trop quand il va arriver, quand est-ce qu'il y aura ce point de bascule, tous nos auditeurs et nous tous aussi croyants, on se pose parfois ces questions où le doute nous frappe. On dit, mais où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Tout ça. Eh bien, au cœur de l'absence la plus complète, au cœur du non-sens, au cœur de l'obscurité et des ténèbres les plus complètes, c'est là que le Seigneur encore nous rejoint. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on ne le ressent pas ou qu'on n'a pas une expérience sensible ou voilà, qu'il n'est pas là, au contraire même.
Oui, en lisant ces versets, je pensais aussi que le milieu de la nuit pouvait symboliser le mi-temps de la vie. Ce milieu de la vie, ce moment où le zèle de la jeunesse, il commence à s'effriter. Alors, dans la vie physique, mais dans la vie spirituelle aussi.
Absolument. Comment dire, les nuits, tous les jours il fait nuit, si j'ose dire. Tous les jours il fait nuit dans le réel de nos vies, mais aussi dans le réel de notre vie spirituelle. Et effectivement, vous dites, il y a des moments... Il peut y avoir des moments de grands envolées, de grands projets, et c'est peut-être effectivement quelque chose de la jeunesse. Il y a des moments du middle age qui sont, de se dire, finalement, je ne peux plus faire ci, est-ce que je peux encore faire ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on assume sa vie ou est-ce qu'on la regrette? Est-ce qu'on est désabusé ou est-ce qu'au contraire on continue à vivre? Effectivement, il y a des passages comme ça qui peuvent être parfois des périodes de profonde obscurité pour certains qui négocient mal leur virage, si j'ose dire, et d'âge spirituel et aussi physique, humain. Mais toutes ces questions-là se posent pour tout le monde à différents moments. Mais en tout cas, le cœur du message, c'est de se dire, le Seigneur ne nous abandonne pas dans ce qui peut être compris comme des ténèbres et les ténèbres les plus épaisses, le milieu de la nuit.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Sébastien Anthony, Matthieu nous dit, dans la suite de la parabole, « Toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez les marchands. » Réponse des prévoyantes qui peut paraître un peu égoïste.
Ah, complètement. Complètement, ça peut paraître égoïste, mais
on peut partager ses réserves.
Mais il y a des choses qui ne se partagent pas.
Ah, alors qu'est-ce qui ne se partage pas ?
Il y a des choses qui sont difficiles à partager. Il y a des choses que l'on ne peut pas donner. On ne peut pas partager. On ne peut pas couper de l'amour. L'amour, ça se multiplie. On ne peut pas imposer sa joie à quelqu'un. On ne peut pas, parce qu'on est joyeux soi-même, faire en sorte que l'autre en fasse le soir. On peut pas vivre à la place de l'autre.
On peut pas non plus lui transmettre l'espérance.
On peut lui en parler, mais on peut pas lui imposer. Et la foi encore moins. C'est-à-dire que, c'est une expression et c'est une expression consacrée, mais qui à mon avis mérite d'être interrogée. Pour moi, la foi ne se transmet pas. Elle ne se transmet pas. On transmet éventuellement un savoir,
un contenu,
mais de là à y adhérer. Alors on peut penser avoir la foi si on check toute la liste du catéchisme en disant ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Est-ce que ça change ma vie? Est-ce que ça la transforme? Est-ce que je la prends au sérieux? Est-ce que ça la bouleverse ou pas? Donc la foi, ça ne se transmet pas. On peut éventuellement éveiller du désir. On peut éventuellement ouvrir des portes. Mais après, le passage, la bascule, y croire, y adhérer, on est seul finalement à le faire. Et c'est pour ça que ça ne se partage pas.
Et cette huile qui ne peut pas se partager. Alors, les commentateurs et dans l'histoire, notamment les pères de l'Église, donc ça veut dire les premiers commentateurs, si vous voulez, des textes bibliques au premier siècle, aimaient bien y voir quelque chose de l'ordre de l'esprit, des dons de l'esprit. Et de fait, c'est lié avec ce royaume dont on se règne, avec cette huile qui prend soin, parce que l'esprit prend soin du monde, bien sûr, et nous en sommes les agents et les passeurs, si vous voulez. C'est le rôle de tous les baptisés que de prendre soin du monde dans les dons que l'Esprit nous fait pour ce monde. Les dons que l'Esprit nous fait, là, sa force, sa sagesse, tout ce qu'il nous donne, c'est pas pour nous, c'est pour être partagé. Ça oui, mais on ne peut pas l'imposer, encore une fois. C'est à être proposé, c'est pas la même chose.
Pendant que certaines vierges vont acheter l'huile manquante, l'époux arrive. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Alors on ne sait pas qui ferme la porte, mais cette porte est fermée. La fenêtre météo pour rentrer aux noces est très très réduite.
Mais en même temps, c'est pour nous dire la réalité de la vie. Il y a des moments où c'est trop tard. Et il y a beaucoup de trop tard qu'on a tous vécu. Un pardon qu'on n'a pas donné et c'est trop tard parce que la personne est décédée. Un je t'aime qu'on n'a pas échangé et c'est trop tard parce que la personne est partie. On a tous vécu des trop tards. Et oui, un jour il sera trop tard parce que la vie est courte, la vie a une fin aussi, notre vie a une fin sur cette terre, et il sera trop tard pour se décider et pour vivre selon l'Évangile. C'est le bon sens. Il y a pas de punition là-dedans. C'est juste un rappel que l'on va mourir et que tout n'est pas possible et que tout n'est pas ouvert tout le temps et possible tout le temps. Voilà. Il y aura un jour où effectivement ça sera trop tard et la porte sera fermée. Pas pour nous exclure, mais parce que c'est la vie.
Sébastien, Anthony, lisons la fin de cette parabole. Les jeunes filles qui étaient parties chercher de l'huile arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas ». Réponse difficile.
Et en même temps, il faut la lier à justement quelques versets de ce chapitre 25 qui vont suivre un peu plus tard, où vous savez, ce jugement dernier, vous en parliez tout à l'heure, où il y a exactement la même chose qui est dit, allez-vous-en loin, mais quand est-ce qu'on, loin de moi, maudit, mais quand est-ce qu'on était près de toi? Ah ben, à chaque fois que vous avez fait ceci, cela, au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah bon, ben voilà. Parce qu'en fait, Jésus, dans ses paraboles et dans son enseignement, va bouleverser nos conceptions. C'est-à-dire que là, il ne les connaît pas alors qu'elles étaient là aussi à veiller. Il ne les connaît pas parce que justement, elles n'ont pas pris soin. C'est une manière de dire, si tu ne prends pas soin, encore une fois, avec cette huile qui fait la différence. Il faut vraiment regarder, c'est ça le fil conducteur, c'est l'huile, hein, c'est pas la sagesse ou les filles, etc. C'est vraiment l'huile qui doit prendre soin au nom du royaume. Si tu n'as pas pris soin de ceux qui en avaient besoin, nourrir, soigner, accueillir, éclairer, enfin tout ce que fait l'huile, je ne te connais pas. Le Seigneur ne te connaît pas. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, de faire des prières, de passer sa vie à quatre pattes en prière. C'est pas ça. C'est pas ça qu'attend le Seigneur dans la relation. Si on doit être à quatre pattes, si on doit être à genoux, c'est peut-être devant lui, le Seigneur, mais aussi et d'abord, et il nous le dit dans l'Évangile selon saint Jean, devant l'homme, devant tout homme qui en a besoin.
À travers celui qui souffre, le plus fragile.
Exactement, et de prendre soin de lui. C'est ça qui est le plus important. Et là, on est reconnu. Et un peu plus loin, dans cet Évangile de Matthieu, au chapitre toujours 25, le même chapitre, c'est quelques versets plus tard, il va dire, effectivement, si tu as donné un verre d'eau, c'est à moi que tu l'as fait. Si tu as visité les prisonniers, c'est moi que t'as visité. Si tu as nourri la famille, c'est moi que tu as nourri. Et là, je te reconnais. Donc, attention, on est à la finale de l'évangile de Matthieu. C'est aussi important de voir qu'on est à la fin d'un évangile. C'est-à-dire qu'en gros, Jésus nous dit, décide-toi sur ce message l'enseignement que j'ai délivré, tout ce que j'ai pu montrer, décide-toi. Mais attention, croire en Dieu, se mettre à son service et vouloir passer dans la foi, si vous voulez, ce ne sera pas d'abord faire des grandes prières ou des grandes choses, je ne sais pas quoi, ça sera d'abord servir.
Ce n'est pas au nombre de messes auxquelles j'ai participé que je serai reconnu.
Non, c'est au nombre d'attentions, de je t'aime et d'attention aux plus petits que l'on sera reconnu. Le reste n'est que mensonge.
Ce texte se termine avec cette phrase « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour » ni l'heure. Veillez pour justement ne pas rater ce temps de la rencontre avec Dieu, mais à travers le frère alors, d'après ce que vous venez de dire.
Exactement. Veiller, c'est pas le contraire de dormir, hein. C'est pas de cet ordre-là. Mais c'est effectivement être au chevet, veiller comme une maman peut veiller son enfant malade. Veiller, c'est être auprès du plus pauvre, de celui qui en a besoin. Pas forcément un pauvre en argent, mais de mon frère qui est à côté, qui a besoin de moi, besoin d'écoute, besoin de présence. Voilà. C'est ça, veiller. C'est être présent là où on a besoin de moi et là où le réconfort du Seigneur a besoin d'être apporté aussi.
Sébastien Anthony, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur cette parabole. En quoi ce texte nous rejoint aujourd'hui ? Quand on décide de suivre le Christ, j'ai l'impression qu'on peut être à la fois insouciant et puis avisé, qu'on a des périodes comme ça dans notre vie où on n'est pas une fois l'une, une fois l'autre de ces vierges, mais on est les deux un peu à la fois, non ?
On est les deux à la fois. Et alors, on n'a pas parlé du mot vierge, parce qu'au temps du Christ et dans l'Antiquité, la virginité, aujourd'hui encore, mais un peu moins, la virginité était une vertu. Eh bien, en fait, la vertu, on s'en fiche avec l'Évangile. C'est pas la vertu de ces vierges qui en font quelque chose qui font la différence. C'est leur huile, c'est leur capacité à prendre soin des autres. Et ça, c'est merveilleux pour nous aujourd'hui.
Parce que
justement, c'est pas la vertu qui sauve. C'est pas parce que parfois l'Église ou certains dans l'Église voudraient que l'on ait une sorte de vertu éthique, morale, qui ressemble à je ne sais quoi, imposant des trucs que personne ne vit, ou ont du mal à vivre en tout cas. Mais c'est pas ça qui fait la différence, c'est pas ce qu'attend le Christ, pas du tout, c'est une folie que de croire ça. Au contraire, c'est de prendre soin de l'humanité. Parfois, il y a des personnes, effectivement, et on l'est tous un peu, hein, mais qui voulant plutôt prendre soin de leur vertu, se regardent finalement de nombril et ne voient pas ceux qui sont autour d'eux. Et ça, c'est tellement triste. C'est rater l'Évangile. Alors que, vraiment, on arrive à la fin de l'année liturgique, il reste encore quelques dimanches avant le Christ-Roi. Mais vraiment, c'est d'entendre tout ce que le Seigneur nous a dit tout au long de cette année dans l'Évangile de Matthieu. Ce n'est pas la vertu qui est essentielle ou le vernis que l'on voudrait avoir ou je ne sais quoi encore, c'est servir.
Merci à vous Sébastien Anthony. L'Évangile que nous avons lu est à retrouver donc chez Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.